Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Double actualité ce soir, à la fois le 38e congrès du CRIF avec la prise de parole de Gabriel Attal dans un contexte d'antisémitisme très important. Vous le savez, on va en reparler largement. Et en même temps, cet antisémitisme est lié au 7 octobre, au terrorisme du Hamas, au pogrom. Et ce soir, bien le Hamas dit avoir accepté un accord, une trêve. De quelle trêve s'agit-il? On va essayer de le comprendre ce soir avec Gilles Mihaeli, bonsoir, vous êtes le directeur de la publication de la revue Conflit. Michael Prazan, bonsoir, réalisateur, auteur, écrivain. Yohann Usaï, et puis avec nous depuis Israël, Bernard Abouef, qui est le président de Radio Shalom. Mais je voulais qu'on démarre par une image de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. C'est un endroit où Israël a prévu de frapper. Sans doute dans les prochaines heures, mais en tout cas ce soir, les habitants sont sortis dans les rues pour célébrer donc cette nouvelle. Le Hamas affirme avoir informé le Qatar et l'Égypte qu'il acceptait la proposition de trêve. La balle est désormais dans le camp israélien, affirme un haut responsable du Hamas. Et les États-Unis viennent de confirmer qu'il y avait bien une proposition. C'est déjà une première information. Écoutez.
Je peux confirmer que le Hamas a émis une réponse. Nous sommes en train d'examiner cette réponse et d'en discuter avec nos partenaires dans la région. Nous continuons à penser que l'accord sur les otages est dans l'intérêt du peuple israélien, dans l'intérêt du peuple palestinien. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat.
Bon, on va tout de suite prendre la direction d'Israël. Bernard Abouef, bonsoir, président de Radio Shalom. Cette information est tombée il y a quelques heures. Elle est très importante parce que, évidemment, l'enjeu, ce sont les 130 otages qui sont encore aux mains des terroristes depuis quasiment 210 jours. Comment a été commentée d'abord cette information et est-ce que Israël, pour le moment, a réagi?
Alors pour l'instant, les informations du côté des Israéliens, c'est qu'ils essayent de tempérer la nouvelle d'un accord concernant ce cessez-le-feu, car ils disent deux choses. La première, c'est que ce n'est pas leur proposition en fait qui a été acceptée. C'est une proposition qatari et égyptienne. Donc on ne peut pas dire ce soir, le Hamas a accepté une proposition israélienne et donc on va pouvoir avancer. Ils ont accepté, disent les Israéliens, une proposition qatari et égyptienne que eux-mêmes d'ailleurs affirment ne pas reconnaître. En disant par exemple, que Netanyahou n'en a pas parlé aujourd'hui avec Joe Biden lorsqu'ils ont été au téléphone l'un avec l'autre. Alors, les quelques informations qu'on a, nous, ici à Jérusalem, sont les suivantes. D'abord, on a une information depuis plusieurs jours. C'est qu'on parle de la libération de 33 otages israéliens vivants, des femmes, des malades, et que ce serait dans le cadre d'une première phase d'un accord. Ensuite, les informations qu'on a sur ce qui a été accepté, donc du Qatar et de l'Égypte, c'est les termes de l'accord. Les termes de l'accord, je vais essayer de vous dire dans deux minutes ce qu'on sait de nouveau, mais c'est quoi les termes de l'accord? Les termes de l'accord, il y a deux solutions. Soit on est d'accord avec ce qui a été écrit, on pourrait dire, pour que nos auditeurs nous comprennent les détails, soit on est d'accord sur les termes, c'est-à-dire sur l'esprit. Donc ça, on va essayer de savoir plus tard sur quoi les Palestiniens se sont accordés. La deuxième chose, d'après un haut responsable qui n'est pas à nier, c'est d'ailleurs, il faut le dire, c'est à nier qui a annoncé les choses officiellement, ça c'est un très bon point. Parce que c'est le numéro un du bureau politique, c'est un leader en exil, et donc là, on n'est pas du tout dans l'ordre de la rumeur. Donc on a quelqu'un de très important au sein du Hamas qui dit « on est d'accord ». Reste à savoir, je le répète, sur quoi on est d'accord. Vient ensuite un haut responsable palestinien qui s'appelle Al-Nouno, et qui dit « on veut trois choses ». Alors d'abord, première phase de cessez-le-feu, probablement 6 mois. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que normalement, le Hamas demande beaucoup plus. 3 mois, 4 mois. C'est plutôt une idée israélienne, si ce n'est. Et puis il dit, retour des Palestiniens du Nord dans leur foyer. Il dit ensuite libération de prisonniers, ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît, et reconstruction de la bande de Gaza. Là encore, je suis surpris parce que je n'ai pas l'impression que c'est très neuf. Les Israéliens ont déjà accepté le retour des Palestiniens, par exemple à Khan Younes, et même par rapport au nord du pays, j'ai déjà même vu des mouvements de retour, donc je ne vois pas ce qu'il y a de vraiment de nouveau. Deuxièmement, la reconstruction.
On va revenir vers vous dans un instant, mais Gilles Mihaeli a aussi des informations concernant cet accord. Donc on a bien compris une chose qui est très importante. L'accord dont il est question, l'accord dont le Hamas dit ce soir est prêt à signer, n'a rien à voir, n'est pas l'accord israélien. Donc ça pose quand même une grosse question.
Oui, alors, entre ne rien avoir et être une version, entre guillemets, améliorée, c'est deux choses différentes. Donc, pour le moment, les choses ne sont pas claires. Et c'est assez cohérent parce que je vous rappelle que des discussions sur les accords, les libérations des otages en échange de cessez-le-feu et autre chose, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis octobre. Et c'est toujours, c'était toujours des montagnes russes. Il y a 3 ou 4 jours, on était très optimiste. Et après, le moral, il y avait un chute. Et donc, pour nous, c'est difficile. Imaginons les familles de gens concernés, ça doit être insupportable. Et c'est comme ça depuis 6 mois, des hauts et des bas. Parce que une partie de la stratégie des négociations, c'est de lancer des rumeurs pour essayer de mettre la pression sur les uns et les autres. Et je pense que là, il y a une tentative de mettre la pression sur Israël, de signer. Mmh. Il y a une dernière kvetch, ça me rappelle un petit peu ce que c'est Arafat a essayé de faire au Caire il y a 20 ans. Tout a été prêt et il a demandé encore quelques changements au dernier moment parce qu'il s'est disait, bon, là, devant tout le monde, ils ne vont pas rompre. Donc, je peux demander encore quelque chose.
Juste une précision très importante. Je ne sais pas qui peut me donner la réponse. Qui a négocié réellement? On parle des services secrets égyptiens.
Alors, le Mossad, du côté israélien, donc les gens qui étaient sur le terrain, les renseignements égyptiens et la CIA, avec les Qataris.
Alors, le Qatar, on a dit également qu'ils étaient un tout petit peu en retrait, un peu discrédités. Est-ce que vous confirmez cette information, Bernard Abouaf?
Pas forcément. Mais par contre, oui, les Israéliens ont essayé ces dernières semaines de faire en sorte que ça soit plutôt égyptien. Que là, d'ailleurs, on comprend pas pourquoi ça n'a pas toujours été égyptien. Parce que c'est le rôle d'un pays qui a des rapports à peu près corrects avec toutes les parties. Le Qatar a de très mauvais rapports avec les Israéliens. Mais discrédité, je n'irai pas jusque-là.
Bon. Israël également met la pression, parce que chaque camp met la pression, Michael, par exemple. Et ce soir, c'est Rafah. La pression, elle est mise sur Rafah. Puisque Benjamin Netanyahou dit, pour le moment, on va continuer. On a un plan d'évacuation. Il a été présenté, d'ailleurs, aujourd'hui. Il y a des bombardements qui se sont poursuivis. On a demandé à la population, dès ce matin, d'évacuer. Ça, c'est très important. Il y a eu des appels à évacuer. Il y a eu plusieurs tirs israéliens. Et par ailleurs, Israël a publié une carte en disant, voilà comment on va se passer l'évacuation du sud de Rafah. Vous voyez les images ici. Donc ça aussi, ça fait partie du plan pour mettre la pression. De chaque côté, on met la pression. Michael.
Oui, la pression et les manœuvres dilatoires s'exercent au fond dans les deux sens. Le Hamas a bien compris, vu les mouvements de troupes à destination de Rafah, que Israël se prépare à une offensive décisive. Et elle est d'autant plus décisive que l'essentiel du Hamas se trouve retranché à Rafah. Donc c'est évidemment très compliqué aussi, parce que c'est là aussi que se sont regroupés la plupart des réfugiés de la bande de Gaza. Face à ces situations, le Hamas a tout intérêt à feindre, en tout cas, d'accepter une trêve, et si possible, à ces conditions.
Mais on sait que c'est un point de crispation, y compris avec les Américains. D'ailleurs, on va écouter une autre déclaration américaine, c'était il y a quelques minutes, qui dit « Rafah, attention, il ne faut pas qu'Israël y aille ». Et on l'a dit et on l'a répété à Benjamin Netanyahou.
Nous avons clairement exprimé notre position sur Rafah depuis un certain temps, à savoir que nous ne pouvons pas soutenir une opération sur Rafah telle qu'elle est envisagée à l'heure actuelle. Nous avons clairement indiqué, le secrétaire d'État l'a fait lors de ses entretiens avec le Premier ministre Netanyahou et d'autres membres du gouvernement israélien la semaine dernière, que nous n'avons pas vu de plan humanitaire crédible et réalisable.
Voilà, donc ce que dit clairement la Maison-Blanche, c'est attention, mais comme souvent d'ailleurs, avec ce qui est reproché à Benjamin Netanyahou, vous attaquez, mais derrière, il n'y a pas de stratégie diplomatique, il n'y a pas de stratégie politique. Gilles.
Surtout, il n'y a pas de stratégie humanitaire. On ne parle plus de jour d'après. Mais si on lit la presse israélienne, Ce qu'on voit, c'est que le projet du gouvernement, c'est de faire une petite opération. Parce que quand on dit Rafah, tout le monde pense à l'intégralité de la ville de Rafah et une opération avec l'intensité qu'on a déjà vue depuis novembre l'année dernière. Et donc là, ce qui a été fouetté en Israël, c'est un, ce ne sera pas toute la ville de Rafah tout de suite, c'est juste un quartier, les quartiers les plus à l'est ou les plus sud-est, et que c'est une partie de la population donc. Et en même temps, il y avait ce qu'on appelle des sources israéliennes qui ne cessaient pas de dire c'est une opération partielle, ça ne va pas commencer tout de suite parce qu'il faut laisser le temps aux Gazaouis, aux Rafahouis de partir. Et donc, à chaque moment, on peut l'arrêter si jamais le Hamas montre une approche plus positive. Donc, c'était très mesuré de la part d'Israël et ce n'est pas la grande opération que tout le monde craint.
Bon, avant de redonner la parole à Bernard Abouaf, un commentaire de Yohann Uzaï qu'on n'a pas entendu.
Alors, on ne connaît pas les détails de cette proposition de trêve, donc il est difficile de voir quelle pourrait être la stratégie derrière. Néanmoins, on peut quand même légitimement s'interroger sur le timing de cette proposition de trêve qui intervient précisément donc de la part du Hamas au moment où Tsahal entre et s'apprête à entrer plus encore dans Rafah.
Parce que la seule façon d'avancer et de négocier, c'est de mettre la pression.
L'idée qu'on pourrait tirer derrière tout cela, c'est que précisément le Hamas a quand même des choses à cacher dans Rafah et qu'il veut à tout prix éviter une incursion des troupes israéliennes.
Michael, puis Bernard.
Oui, bien entendu, mais ce qu'a dit Gilles Mikhaïli tout à l'heure était intéressant, à savoir que les négociateurs finalement étaient surtout membres de la CIA et que ça n'est pas passé par les services israéliens, parce que de toute évidence, les États-Unis n'ont pas du tout envie de cette bataille de Rafah, et donc ils ont beau jeu aujourd'hui de redistribuer les cartes et de donner plutôt l'avantage vers la trêve au Hamas qu'aux Israéliens, qui se retrouvent d'une certaine manière cornérisés.
Bernard, simplement, les chances qu'on arrive à un résultat avec ce texte, cet accord dont, effectivement, Michael disait très justement qu'on ne connaît pas l'intégralité.
D'après moi, Rafah, c'est pas en plus. D'après moi, c'est le point central des négociations. C'est-à-dire que, en fait, d'ailleurs, y compris la presse israélienne le dit, c'est les otages, Rafah, c'est lié, c'est la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Sinwar a cru, ou en tout cas a tenté le coup, a tenté un rapport de force, un bras de fer, en disant « je garde les otages, vous n'entrerez pas à Rafah », Netanyahou a dit exactement le contraire. « Vous ne nous donnez pas les otages, je rentre à Rafah ». Donc d'après moi, en fait, le vrai point de négociation de ces derniers jours, c'était Rafah. Et effectivement, comme le disent vos invités en plateau, c'est pas un hasard. Ce matin, on apprend qu'Israël a lancé les premiers SMS, les premiers flyers, c'est comme ça qu'ils font. Ils préviennent la population en leur disant « partez », c'est une méthode d'action israélienne. On a aussi des soldats qui sont morts dans le secteur. On a vu des choses. Donc apparemment, l'opération était en train de commencer. Et d'abord, Sinwar dit « si vous rentrez à Sinwar, c'est justement pour ça que je ne libérerai pas les otages. Les Israéliens commencent à rentrer à Rafah et on voit Haniyeh, je le répète, c'est très important que ça soit Haniyeh, qui au plus haut niveau vient et dit « bon, on est d'accord, on a accepté les termes de l'accord ». Donc d'après moi, Rafah, ce n'est pas en plus, c'est le point central des négociations. Qu'est-ce qui va se passer à Rafah ?
L'armée israélienne dit avoir aujourd'hui frappé plus de 50 cibles terroristes à Rafah. On comprend bien effectivement la pression. Peut-être
oui.
Pour conclure.
Il y a autre chose qui est très important. C'est que le 4 soldats israéliens qui étaient tués hier, ils étaient tués par des tirs de mortier sur le point de passage de Kerem Shalom. C'est-à-dire que...
C'est l'endroit normalement où il y a l'aide humanitaire.
Exactement.
Passe.
Et donc, le Hamas, qui accuse Israël d'affamer Gaza, n'a pas hésité à tirer, sachant pertinemment que la moindre des conséquences, c'est que ce site, c'est que ces passages vont être fermés, allaient être fermés pour au moins quelques heures ou quelques jours. Ce qui veut dire que des camions n'entrent pas, ce qui veut dire que le Gazaoui ne reçoive pas l'aide alimentaire et les essences dont ils ont besoin pour survivre. Et donc, il faut pas perdre de vue ces cynismes et ces jeux extrêmement pernicieux de Hamas.
Bon. Bernard Abois, vous restez, si vous le voulez bien, quelques minutes avec nous pour parler aussi de l'antisémitisme. Je rappelle aussi que ça fait 213 jours que trois franco-israéliens sont en main des terroristes du Hamas. Et vous le savez, nous demandons leur libération sans condition chaque soir. Orion Hofer, OHA, 213e jour de détention pour les otages franco-israéliens du Hamas. Par ailleurs, c'est aujourd'hui le jour de la commémoration de l'Holocauste. Tout ça n'est sans doute pas un hasard, d'ailleurs. Alors, je voulais vous montrer une image. C'est en Pologne, à Auschwitz, où des dizaines de personnes ont participé à la marche de l'Holocauste jusqu'à Auschwitz-Birkenau, portant des drapeaux israéliens. Et une photo, là, vous voyez, du soldat d'Arkama qui était tué au combat dans le kibbutz Kfar Aza le 7 octobre 2023. Les chiffres de l'antisémitisme, grande enquête réalisée par l'IFOP ces dernières heures, elle est absolument sidérante. Peut-être que tout à l'heure, Gabriel Attal en parlera lors de son intervention au CRIF, dont c'est le 38e dîner. Pour le moment, c'est son président, Yonatan Arfi, qui a pris la parole. 38e dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, peut-être. Préciser, Gilles, ce que représente le CRIF. Ce que c'est le CRIF.
Le CRIF, qui a été fondé pendant la guerre, c'est une organisation de représentation plutôt politique, parce qu'il y a aussi le consistoire, donc il y a tous les côtés culturels de la gestion de la religion juive, disons, de la religion des Français juifs, et que dans des circonstances très particulières de la guerre, la communauté juive a aussi créé un organisme disons plutôt politique de représentation de la communauté vis-à-vis des autorités et vis-à-vis des autres.
Je le disais, l'antisémitisme en France, 35% des moins de 25 ans, on va commencer par ce chiffre, 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien réel ou supposé à Israël. C'est un chiffre qui est absolument sidérant, Yoann.
Oui, mais en même temps, c'est un chiffre qui n'est pas... étonnant en réalité, c'est un chiffre qui est dramatique, mais on pouvait s'attendre à ce genre de résultat compte tenu des paroles qui sont tenues dans la sphère publique par un certain nombre de responsables politiques notamment qui prennent un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu depuis le 7 octobre, qui entretiennent cette haine des juifs qui a effectivement gagné une partie de la jeunesse française, mais pas seulement. Et puis derrière tout cela, il y a aussi bien sûr les frères musulmans, les salafistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, un réseau qui est beaucoup utilisé par les jeunes. Là aussi, ça contribue à l'endoctrinement de cette jeunesse. On le voit dans les facs, évidemment, on en parle beaucoup, mais il est vrai que, bien sûr, les Juifs, et notamment les Juifs de France, aujourd'hui sont la cible de menaces qui sont des menaces de plus en plus précises, ciblées et intenses.
Pour 67% des musulmans, Israël se comporte avec les Palestiniens comme les nazis avec les Juifs. Alors la comparaison avec les nazis qui revient tout de suite, tout le temps depuis le 7 octobre, c'est une totale inversion de l'histoire et des mots, évidemment.
C'est surtout de la part des gens, on ne cesse pas de nous dire qu'ils refusent d'apprendre ces chapitres d'histoire. Donc comment ils savent ? À l'école, ils refusent. Les profs ont de plus en plus de mal à parler de cette époque.
Donc, certains n'y arrivent plus du tout.
On comprend qu'à la base d'une telle ignorance, on peut faire toutes les comparaisons.
Michel.
Oui, non, mais ça montre aussi qu'un certain nombre, à force de marteler des contre-vérités, de la diffamation, hurler sans cesse le mot génocide, apartheid, qui sont hors de toute réalité, il faut bien le préciser, laisser accroire aussi qu'il s'agit de manifestations. Celles qui ont lieu à l'ENS, qui ont lieu à la Sorbonne, qui ont lieu à Sciences Po, sont des manifestations pro-palestiniennes. Ça n'est pas le cas. S'ils avaient émis la moindre compassion à l'égard des Israéliens massacrés le 7 octobre, s'ils avaient pointé...
Parler des otages, simplement.
...du Hamas. En réalité, tout cela n'a qu'un but et ça confirme les chiffres délirants de ce sondage. Je rappelle qu'il y a... je crois, 43% des 18-26 ans qui s'identifient à des marqueurs antisémites. C'est-à-dire le complotisme, c'est pas que Israël. Oui. Donc il y a quand même ce contexte qui fait qu'au bout d'un moment, oui, il y a la volonté, en fait, elle est double. Ce sont des manifestations qui ne sont pas pro-palestiniennes, qui ne sont pas pro-Gazaoui, elles sont purement anti-israéliennes, antisémites, et elles ont deux objectifs. Le premier, c'est la nazification de l'État d'Israël. Et le deuxième, c'est l'effacement de la Shoah.
Bon, on est en plein dedans. Bernard Abouaf, 86% des Français juifs craignent davantage d'être victimes d'agressions antisémites depuis le 7 octobre. Et toujours dans ce sondage, il est écrit la moitié des personnes interrogées de confession juive donc a arrêté de porter des signes religieux dans les espaces publics. Un tiers ne prend plus du tout le taxi. 19% ont retiré la mezouza de leur façade. 17% ont créé un groupe sur une messagerie uniquement pour échanger avec les proches. Bref, ça veut dire qu'il y a une peur en ce moment, on a bien compris, il y a une peur des Français, des Juifs de France de vivre cette période depuis le 7 octobre.
Il y a aussi ceux qui ne veulent pas se faire livrer. Ils disent, moi je ne prends pas de risque, je n'ouvre pas ma porte. Il y a aussi tous ceux qui n'ont pas signalé parce qu'on dit non mais regardez ils exagèrent, on entend souvent ça autour de nous, mais moi c'est le contraire. Moi par exemple je me suis fait agresser, on m'a menacé, je sais pas comment on l'a retrouvé, bon je vais pas donner des détails, je vais pas donner d'idées, mais on m'a menacé, donc après j'ai commencé à signaler à la communauté. On m'a dit il faut aller porter plainte, c'est tellement compliqué. J'ai dit laisse tomber, je suis pas allé porter plainte. Ils se parlent autour de moi, j'ai énormément de gens qui font comme ça. C'est vrai que vous avez aujourd'hui une rencontre qu'on craignait un peu mais qui est arrivé. C'est la rencontre entre les complotistes, les pro-palestiniens, on va dire, qui donc, voilà, bah, t'es juif, tu soutiens Israël, donc je t'aime pas, je suis pas forcément le meilleur spécialiste du Proche-Orient, mais bon, voilà, on rencontre les complotistes, on rencontre l'idée, y compris, c'est l'extrême-gauche et l'extrême-droite, y compris de l'autre côté, vous tenez la finance, vous tenez le monde, et ça donne les chiffres effrayants que vous venez de divulguer.
Bon, le seul qui peut être positif, je l'interprète comme ça, plus de 7 Français sur 10 ont conscience de l'augmentation du phénomène de l'antisémitisme, et ça c'est important. On va écouter à présent Yonatan Arfi, c'était il y a quelques minutes, parler des sanctions qui devraient être évidemment exemplaires contre les antisémites.
On ne peut pas se permettre de laisser penser qu'il y aurait une forme d'impunité. Il faut être ferme à la fois sur les sanctions, mais il faut aussi être exigeant avec nous-mêmes, notamment sur les questions d'éducation, parce que nous avons vu depuis le 7 octobre, un rajeunissement extrêmement important, à la fois des victimes et des auteurs d'actes antisémites, jusqu'à parfois des cas à l'école primaire. Nous avons donc besoin d'une vision globale qui inclut les sanctions, la prévention, l'éducation, la mobilisation aussi autour de la question des réseaux sociaux, parce que nous avons aujourd'hui des réseaux sociaux qui servent de caisse de résonance, de catalyseur à la haine antisémite.
Bon, je voulais vous montrer une séquence qui a été partagée aujourd'hui par Aurore Berger, histoire de cette petite fille, 7 ans, et déjà victime d'antisémitisme. Elle est en CE2. Ça s'est passé en colonie, en classe verte.
On préparait les chants pour une classe verte. Ben, y a une petite fille de mon âge, dans ma classe, qui m'a dit « Je veux pas être dans ta chambre en classe verte parce que t'es juive. »
Au moment de dire en fait qui va être dans quelle chambre ?
Oui. Et elle a dit « Je veux pas être dans ta chambre parce que t'es juive. »
Comment t'as réagi quand elle t'a dit ça ?
Bah, je pouvais pas parler, je pouvais pas le dire.
Il y avait d'autres personnes autour de toi ?
Non.
Elle te l'a dit, personne n'a entendu ?
Oui.
T'as été le dire aux adultes ?
Non. J'étais trop choquée pour le dire.
Donc t'as plus parlé ?
Oui.
Il y a tout dans ce témoignage recueilli par Sophie Naoum et diffusé ce matin au cours des assises de la lutte contre l'antisémitisme, c'est la jeunesse, la peur, le silence, évidemment. Et puis, en revanche, elle a tout compris. Elle a tout compris, l'antisémitisme, ça se comprend très vite.
Je voulais juste rappeler aux apôtres de deux poids, deux mesures, qu'il paraît que le pas d'amalgame, ça marche que d'un sens. Chaque fois qu'il y a un attentat en France commis par un musulman ou quelqu'un qui se revendique au nom de l'islam, on parle des victimes et tout de suite on parle de musulmans qui risquent de subir les conséquences d'une haine mal dirigée vis-à-vis évidemment de la majorité des musulmans qui n'ont rien à voir. Ces règles-là ne s'appliquent pas aux juifs. Non, mais... Pour les juifs, personne ne se pose la question de ces liens, de cet amalgame. Oui, pardon.
Non, je vous en prie, mais ça va même au-delà de ça. C'est qu'aujourd'hui, les Juifs sont les victimes et ne sont pas les coupables. Les Juifs sont victimes de ce qui se passe. Cette petite fille, elle est une victime. Et il faut s'interroger peut-être sur les parents de la fillette qui a tenu ses propos aussi. Parce que ça,
c'est... Elle n'a pas osé en parler, elle ne dit rien. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Elle n'a pas été retrouvée par hasard, j'imagine.
Oui, alors c'est évidemment les parents, mais vous savez, de ce point de vue-là, au fond, ça a toujours existé. On a connu, c'est vrai, une parenthèse enchantée, disons, entre les années 80 et les années 2000, où ça a quand même commencé avec la seconde intifada, etc. Mais moi-même, lorsque j'étais en CE2 ou CE1, j'avais mon meilleur ami, je me souviens, il s'appelait François Dufresnoy, il m'avait invité à son anniversaire. Le lundi, il arrive en me disant « Bon, tu ne peux pas venir parce que tu es juif et ma mère ne veut pas ». Donc c'est des choses auxquelles
Madame la
finalement...
Première ministre, messieurs les premiers ministres, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les députés, sénateurs, députés européens, madame et messieurs les présidents de région, madame la maire de Paris, mesdames et messieurs les maires et les élus, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président du consistoire central, mesdames et messieurs les représentants des cultes, monsieur le président du CRIF, cher Yonatan Arfi, mesdames et messieurs. C'est un document qui ne me quitte jamais. Il est encadré dans mon bureau. C'est un document un peu jauni par le temps, à l'encre légèrement effacée, mais dont le sens et l'horreur intacts ont traversé les années. Sur ce document, je lis un nom, celui de ma grand-mère, Jeannine Veil. Je lis cette phrase. Le commissaire de police donne acte qu'il a, ce jour, satisfait à la loi du 2 juin 1941 portant recensement des Juifs. Car ce document, c'est le récépissé qui lui a été donné après avoir retiré son étoile jaune au commissariat en juillet 1941. Cette étoile, c'était une condamnation à mort. Et ce récépissé en était le visage froid, technique, administratif. Ce récépissé, je le garde toujours dans mon bureau, comme un rappel. Le rappel de l'infamie qu'a commis notre pays en se rendant complice et coupable d'antisémitisme. Car dans ces heures, notre pays a tourné le dos à son histoire. Et s'en est pris aux siens, aux Français juifs, ostracisés, humiliés, spoliés, déportés. Le rappel que la haine est sans limite, qu'elle est une machine infernale qui emporte et broie avec elle toute trace d'humanité. Le rappel de ce qu'est l'antisémitisme, de ce qui a été accompli au grand jour en son nom, de ce qui se passe quand on ne le condamne pas, quand on ne le combat pas. Alors pour moi qui suis né en 1989, pour moi qui n'ai pas connu la guerre, dont les parents n'ont pas connu la guerre, pour moi, pour ma génération, qui a peut-être cru trop vite que le progrès était éternel, que la paix était durable par principe, que la liberté et l'égalité étaient acquises, pour moi, comme pour ma génération, ce document est un rappel nécessaire, salutaire. C'est aussi un vertige. Vertige de se dire qu'il y a 80 ans seulement, on forçait en France des femmes, des hommes, des enfants à porter l'étoile jaune dans la rue. Vertige de comprendre que la mémoire est mortelle à mesure que les voix des derniers survivants s'éteignent. Isabelle Chocot, Magda Hollander-Lafont, Claude Bloch, ces derniers mois ont encore été cruels et chacun d'eux portait une part de la vérité qu'il nous appartient de perpétuer. Mais le plus grand des vertiges, c'est celui qui me saisit en regardant l'actualité. C'était il y a 8 décennies, mais soyons lucides, cela pourrait être demain. Souvent l'histoire trébuche, elle n'en serait pas à son premier bégaiement. Car oui, je le dis sans embâge, nous faisons face à une vague d'antisémitisme. Une vague d'une ampleur rare, plus forte, plus violente, plus relayée, plus établie qu'elle ne l'a été au cours de ces dernières années. Cette vague puissante, chacun connaît l'onde qui l'a réveillée. C'est le 7 octobre. Il faisait beau en Israël ce jour-là. Dans des villages, des kibboutz, des fêtes, des familles ne demandaient qu'à vivre ensemble, des enfants à grandir, des jeunes à profiter de l'insouciance de leur âge, des personnes âgées à vieillir en paix. Ils ne demandaient rien que de vivre, mais la barbarie en a décidé autrement. Mais la monstruosité du Hamas s'est interposée. L'horreur du terrorisme, de l'islamisme, les a emportés. Ce jour-là, plus de 1200 personnes ont perdu la vie. Ils avaient tous les âges, toutes les opinions, tous les avenirs. Parmi eux, 42 Français. 42 de nos compatriotes emportés dans ce qui est l'attentat le plus meurtrier pour la France depuis le Bataclan. Ce jour-là, 240 personnes ont été prises en otage. Eux aussi, ils ont tous les destins et pour certains, ils ne sont que de nouveau-nés. Toute leur vie est à écrire. Mais la barbarie islamiste ne s'arrête pas à cela. Elle ne recule jamais devant rien. Aujourd'hui, plus de 130 otages sont encore retenus à Gaza, parmi eux trois Français, Orion Hernandez Radou, Ouad Yahalomi, Ofer Calderon, trois Français dont je tiens comme vous, Monsieur le Président, à redire les noms, car nous ne les rappelons pas assez. Trois Français dont je veux dire les noms, car nous ne les oublions pas. Depuis le premier jour, autour du Président de la République et en lien avec certains États de la région, la France est à l'initiative pour obtenir la libération des otages. Devant vous, j'en prends à nouveau l'engagement et je vous donne ma parole. Nous n'abandonnerons pas. Nous n'abandonnerons jamais. Ce jour-là, ce 7 octobre, toutes les ignominies ont été commises. Les viols, les égorgements, les bébés sur lesquels on s'acharne, les femmes éventrées, les vieillards humiliés avant d'être massacrés. Et le tout au son des cris de joie des terroristes du Hamas. Le tout au son des exclamations des terroristes qui, ivres de bonheur, criaient mort aux Juifs et appelaient leurs proches pour annoncer fièrement leurs crimes. Alors aujourd'hui, avec vous, je veux rendre hommage aux victimes. Avec vous aujourd'hui, je veux dire ma fierté de la décision du président de la République de rendre hommage à ceux du 7 octobre. Nous sommes le seul pays au monde à avoir rendu un tel hommage national aux victimes. C'était justice et c'est l'honneur de la France. Mesdames et messieurs, lors de cet hommage, j'ai eu l'honneur de rencontrer des familles des victimes. Nos échanges, je ne les oublierai jamais. Ils sont gravés dans ma mémoire. Ils ne me quitteront pas. Je me rappelle de cette famille, de ses parents. Leur fille aimait la fête, mais elle s'était cassée la jambe. Elle avait la jambe dans le plâtre. Elle a dit qu'elle voulait quand même aller au festival. Ses parents m'ont raconté comment ils avaient ri ensemble et comment ils lui avaient demandé « Mais comment tu vas danser alors que tu as la jambe dans le plâtre ?» Elle a dit « Je danserai assise sur une chaise avec mes amis. » Et effectivement, la dernière vidéo de leur fille qu'ils ont reçue et qu'ils m'ont montrée sur leur téléphone, c'était leur fille assise sur une chaise, la jambe dans le plâtre, qui dansait avec le sourire, avec ses amis autour d'elle. Et puis les terroristes sont arrivés. Ses amis ont pu partir en courant. Elle avait la jambe dans le plâtre. Elle n'a pas pu partir. Elle s'est réfugiée derrière un véhicule que les terroristes du Hamas ont fait exploser. Et ses parents m'ont dit que pour les obsèques de leur fille, ils n'avaient pu enterrer en tout et pour tout que deux dents. C'est tout ce qu'ils avaient retrouvé de leur fille. Mesdames et messieurs, quand on entend de tels témoignages, je le dis, on a du mal à entendre les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. On a du mal à entendre les leçons de morale à un peuple qui a souffert une telle atrocité jusque dans sa chair. Et je le dis, devant la dignité de cette famille, devant la dignité des victimes, j'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Honte. Honte de toujours éluder ce drame. Honte de souffler sur des braises dont le passé nous a montré où elles menaient. Sous l'autorité du président de la République, avec mon gouvernement, nous nous battons pour la paix dans la région, nous nous battons sans relâche pour éviter l'escalade, mais je le dis aux représentants de la France insoumise, jamais la paix n'est passée par la haine. Bien sûr, les propos de la France insoumise, nous y sommes habitués. Et je le dis aussi J'aimerais que les condamnations que l'on entend aujourd'hui dans ces propos soient permanentes et perpétuelles, parce que nous savons que ces propos avaient déjà été tenus il y a quelques années et seront malheureusement probablement encore tenus dans les années à venir, quand l'émotion peut-être sera retombée. Mesdames et messieurs, dans cette période, ne nous laissons pas non plus berner par le cynisme absolu de ceux qui disent soutenir les Français juifs par réflexe anti-musulman, de ceux qui pensent que les Français juifs sont mus par la haine et qu'il y aurait donc un intérêt électoral à attiser une forme de haine anti-musulman. C'est profondément méprisant pour les juifs. Ne nous laissons pas avoir... Ne nous laissons pas avoir par leur posture, leur cynisme, car il ne faut pas gratter beaucoup pour voir poindre la réalité. Je pourrais rappeler le poids de l'histoire. Je ne le ferai pas parce que le présent se suffit encore à lui-même. Parce que le présent, c'est un député du Rassemblement national qui tenait jadis une librairie négationniste baptisée en hommage à un livre de Charles Maurras. Ce député siège aujourd'hui dans le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Parce que le présent, c'est aussi l'état-major de ce parti qui a besoin de plusieurs jours pour trancher la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était ou non antisémite. La ficelle est un peu grosse, personne ne se laissera tromper. Le combat contre la haine est trop grave, trop important, trop puissant. Car mesdames et messieurs, depuis le 7 octobre, c'est bien une explosion de haine à laquelle nous assistons. Monsieur le Président, cher Yonatan Arfi, vous avez rappelé quelques faits édifiants. Cette vague d'antisémitisme n'a pas attendu, pas quelques jours, pas quelques heures. La haine antisémite a commencé à se déchaîner immédiatement le jour même du 7 octobre. Et entre l'attaque du 7 octobre et la fin de l'année 2023, plus de 1200 actes antisémites ont été signalés. En seulement 3 mois, c'est 3 fois plus que sur toute l'année 2022. Aujourd'hui, cette vague ne s'arrête pas. Elle continue à déferler. Sur les 3 premiers mois de l'année 2024, en janvier, février, mars, on a déjà relevé 366 faits antisémites. 366, c'est plus de 4 actes antisémites par jour. C'est une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. Ces actes, c'est la parole antisémite qui se libère, qui se débride. Ce sont des violences, ce sont des intimidations, ce sont des lettres d'injures, d'insultes, de menaces. Je sais le nombre de Français qui en sont victimes. Je sais combien des élus en sont aussi victimes et je veux leur dire leur soutien. Je le sais personnellement car mon nom de famille, lui aussi, aiguise bien des haines. Derrière ces faits, il y a des traumatismes. Il y a des familles qui ont peur, des familles qui doutent de leur place dans la République. Chaque acte antisémite est une tache sur le drapeau français. Alors nous ne les tolérerons pas. Nous ne les tolérerons jamais. Charles Péguy écrivait qu'il n'y avait qu'une chose pire que les âmes perverses. C'était les âmes habituées. Nous ne nous habituerons jamais à la haine. Nous ne cesserons jamais de la combattre.
Voilà, nous ne nous habituerons jamais à la haine, nous ne cesserons jamais de les combattre. Il a tout dit, je trouve, là, Gabriel Attal.
Non, c'est un discours qui est fort, qui est habité, qui est juste. Voilà, c'est
aussi un discours politique contre LFI, contre le RN aussi. Alors, il a pris cet exemple
d'un député du Rassemblement national qui effectivement avait une librairie dans
révisionniste
était vendu des ouvrages antisémites. Il a dit une chose importante quand même, Gabriel Attal. Il dit, compte tenu de ce qu'a vécu Israël le 7 octobre dernier, Israël ne surréagit pas. Donc ça considère que le chef du gouvernement français estime que la réponse d'Israël sur Gaza est proportionnée. C'est quand même important dans le contexte actuel parce que ça n'est pas le discours tenu par
tout le monde. Pas le discours d'Emmanuel Macron, absolument, me semble-t-il. C'est pas le discours de Stéphane Séjourné, me semble-t-il.
Il n'a pas dit ça exactement comme ça. Il a dit ceux qui donnent des leçons, les donneurs des leçons aux Israéliens qui disent que eux, ils sous-réagissent. Mais c'est vrai que je pense que c'est la phrase la plus politiquement la plus importante. Et on peut être optimiste, qu'on peut être pessimiste. On peut être pessimiste parce que malgré le fait qu'on a ce genre de discours, au moins depuis depuis 2012-2013, depuis l'attentat de Toulouse. Et malgré cela, on a ces sondages épouvantables qu'on devait commenter tout à l'heure. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut dire aussi que les manifestations en France étaient beaucoup moins importantes qu'en Angleterre depuis le 7 octobre et que les campus universitaires en France étaient beaucoup moins agités qu'aux États-Unis. Donc il y a quand même quelque chose en France qui fait en sorte que les choses se passent un petit peu mieux.
Oui, mais les manifestations en Angleterre étaient essentiellement islamistes, principalement. On a quand même une très grande communauté très islamisée de longue date. Ça a été le refuge des frères musulmans tout au long des années 80. Tout ça a laissé des traces. On n'a pas tout à fait la même géographie sociale
tout à fait, mais
au sein de ces manifestations.
Ça mérite d'être souligné.
Alors justement, Johan, on va voir une vidéo d'un élu à Leeds. Allez-y, le temps qu'on la retrouve, qu'on la cale.
Non, mais parce que j'allais dire, Gabriel Attal nous dit effectivement depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont explosé, etc. Naturellement, c'est lié au 7 octobre, il l'a dit, c'est lié aussi à la France insoumise qui tient des discours absolument ignobles et qui entretiennent cette haine anti-juif. Mais on évoquait tout à l'heure sur le plateau les années heureuses des années 80 où l'antisémitisme avait un peu disparu. Il y avait un antisémitisme d'extrême droite, mais qui était assez marginal quand même. Et puis, l'antisémitisme, c'est devenu quelque chose de latent. Il n'est pas apparu le 7 octobre. Il a gagné du terrain en réalité en France au fur et à mesure que l'islamisme lui-même a gagné du terrain dans ce pays. Mmh. C'est la progression de l'islamisme en France qui a aussi eu des conséquences sur la montée
de l'antisémitisme. Mais est-ce qu'au Royaume-Uni, on n'a pas est-ce qu'on a la même pratique? Est-ce que le frérisme devient politique? Ce qui n'est pas tout à fait le cas peut-être en France. Vous avez vu peut-être cette séquence, mais on va la revoir en Angleterre, à Leeds exactement. Vous allez voir de quelle manière le candidat écologique, je ne sais pas s'il est vraiment écologiste d'ailleurs, a célébré son entrée au conseil municipal.
We will raise the voice of Gaza. We will raise the voice of Palestine. Allahu Akbar.
Voilà, élection municipale, une victoire pour Gaza. Il fait partie des dizaines de candidats qui, dans tout le pays, se sont présentés sous l'étiquette pour Gaza et ont battu les travaillistes.
Voilà ce que produit le communautarisme, voilà l'idéal du wokisme, ce qu'il souhaite pour la France. Et effectivement, on voit là tout le travail d'islamisation qui a eu lieu en Grande-Bretagne au cours de ces 40-50 dernières années. C'est d'ailleurs en Grande-Bretagne qu'est née la grande antenne européenne des frères musulmans à la fin des années 70, et puis ensuite qui a tissé sa toile d'abord en France, et puis la Belgique, et puis dans toute l'Europe. Mais pour revenir sur ce que disait Johan Usaï à l'instant, il y a quand même un autre facteur qui est déterminant et qui passe sous les radars. Moi, j'ai toujours appréhendé avec une angoisse très grande la disparition des rescapés de la Shoah. Ils étaient le garde-fou qui nous préservait d'une certaine manière de l'antisémitisme par leur discours, par leur expérience vécue, par leur présence dans la société. Et leur disparition actuelle, finalement, c'est, comment dire, allez, on remet les compteurs à zéro. C'est aussi ça qui se passe.
Bon, je vais vous montrer les images de blocus des lycées, parce que c'était après Sciences Po, après les facs, on pensait que ça pouvait être une nouvelle menace. Ça n'a pas été terrible. Quelques images, vous voyez, à l'appel de l'Union syndicale lycéenne et en soutien à la cause palestinienne, les lycéens ont lancé des blocages. Alors, ils sont bien entourés. Amnesty International était là, FO était là, et quelques lycéens, donc ils étaient bien encadrés, justice et liberté pour Gaza. Et évidemment, LFI a apporté tout son soutien à ces jeunes qui sont dans le camp du bien sûr. Rima Hassan devait se rendre dans un lycée de Sevran, je ne sais même pas si elle est allée, vous avez peut-être des infos, Yohann, je ne sais pas du tout.
Non, des informations sur Rima Hassan, j'essaie de m'en passer.
Voilà, ailleurs en Europe, c'est intéressant parce qu'il y a eu des manifestations qui gagnent. Ah, Rima, on est avec toi, voilà ce qu'on dit les étudiants. Les lycéens. Et puis ailleurs en Europe, alors vous parliez de la Belgique, manifestations un peu partout qui gagnent dans d'autres pays, d'autres universités, où l'on voit fleurir des drapeaux palestiniens et des petites tentes. Donc ça, c'est au Danemark, Copenhague, on a mis des petites tentes, des drapeaux palestiniens. Et puis ça, c'est à Gand, en Belgique. La Belgique, on ne cesse de répéter, Zinir Ali, mais à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste en France, c'est passé, à un moment donné, les terroristes sont passés par la Belgique.
Oui, il y a un vrai problème.
Les frères musulmans sont très importants.
Il y a un vrai problème à Bruxelles, il y a un problème à Anvers. Et peut-être c'est lié, mais la Belgique est parmi les 3 ou 4 pays européens qui poussent vers des sanctions économiques contre Israël.
C'est aussi des pays qui ont fait des concessions aux islamistes, en termes de tribunaux religieux, enfin toutes sortes de concessions, et aujourd'hui, ils les payent au prix fort.
Bon, et dernière image, alors ça se passe aux États-Unis, dans la grande université du Michigan, je ne sais pas si vous avez vu, c'était ce week-end, vous allez voir de quelle manière on a la remise des diplômes. S'est déroulé au milieu des drapeaux palestiniens, protestation qui a eu lieu au début de l'événement au Michigan Stadium à Ann Arbor, 75 personnes dont beaucoup portaient les keffiyeh arabes traditionnels et leurs mortiers de fin d'études, je crois que c'est le nom de leur chapeau, ont défilé dans l'allée principale en scandant « Vous financez le génocide ». Évidemment, alors ce qui se passe aux États-Unis, on va conclure avec ça. Ça a étonné beaucoup de monde parce que c'est la plus grande communauté juive après Israël, que c'est un pays où les juifs se sentaient protégés et ils ont vu fleurir une haine absolue, parce que on va pas se cacher la face hein, quand on dit anti-sioniste, c'est anti-juif. Hein. Bon, absolument inattendu, sans doute l'ampleur était inattendue.
C'est l'une des plus grandes surprises pour moi, en tout cas, d'après le 7 octobre. Ce qui s'est produit, enfin, le niveau d'antisémitisme, évidemment, nous a tous surpris. Mais enfin, en gros, les choses se tramaient, étaient là, je dirais, encore une fois, depuis les années 2000. Et puis, il a fallu le bout de feu qui allume la mèche, etc. Mais alors, les États-Unis, effectivement, c'est une surprise extraordinaire. Ça montre aussi les deux sociétés en présence... voire 3 sociétés en présence aujourd'hui aux États-Unis qui sont extrêmement conflictuelles. Et oui, c'est aussi la victoire d'une certaine manière du Qatar.
Ouais. On va se quitter avec des images, me semble-t-il, en direct de Rafah. Ce soir, où la tension est quand même importante, Gilles, peut-être pour conclure, dire qu'il y a cet accord qui est annoncé par le Hamas. Oui, on est d'accord pour la trêve proposée par l'Égypte et le Qatar. Israël n'est pas tout à fait sur la même ligne en disant c'est pas du tout l'accord qu'on avait proposé, et les États-Unis qui sont au milieu, qui essayent de tempérer. Donc c'est ici à Rafah que la suite va se jouer, parce que Rafah, pour Israël, c'est l'endroit, le dernier bastion des terroristes.
Tout à fait, c'est probablement à Rafah que les dirigeants de Hamas s'éterrent. C'est les 4 derniers bataillons de Hamas. Probablement les otages aussi, et ça va permettre à Israël de compléter l'opération militaire dont l'objectif était de détruire la dimension matérielle de Hamas.
Un mot pour conclure, puisqu'à l'instant, Gabriel Attal annonce qu'il y a eu en France 366 faits antisémites au premier trimestre 2024, donc janvier, février, mars. C'est une augmentation, de 300% sur un an. Ouais.
Merci beaucoup. C'était le meilleur de l'info. Michael, Gilles, Johan, dans un instant, vous avez rendez-vous avec, évidemment, encore de l'info, toujours de l'info sur CNews, 22h30, Julien Pasquet pour Soir Info, évidemment. On se retrouve... ça sera pas moi demain soir, ce sera vous. Merci de tenir la baraque. Merci beaucoup, Johan. Moi, je prends quelques jours, mais vous êtes là, c'est ça le principal. Je vous dis bonne soirée et bon week-end pour ceux qui en ont, et puis rendez-vous quand même demain sur CNews. Bye bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.